Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante, Croire, comme le dit l'Écriture sainte. Croire, comme nous le dit l'Écriture sainte. Nous arrivons à l'étude numéro 24. Et le thème d'aujourd'hui sera « Le disciple et la fidélité à la saine doctrine ». L'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité, selon 1 Timothée chapitre 3, verset 15. La vérité est le fondement même de l'Évangile. L'Église est donc appelée à recevoir la vérité révélée par Christ et ses apôtres, à y obéir et à la préserver. Que tout disciple veille, qu'il veille à la cacher dans son cœur, nous est-il recommandé dans les psaumes 119, verset 11, et également à la proclamer, comme étant la sainte parole de vie, Philippiens chapitre 2, verset 16, et en plus à la défendre en dépit de toute opposition, surtout de nos jours, Philippiens chapitre 1, verset 16, et Saint Jean chapitre 3. Telle est donc la tâche qui lui incombe. C'est de demeurer fidèle à la vérité et à la saine doctrine dans ces temps de la fin très difficiles. Saint Jean chapitre 8 verset 31 et Tite chapitre 2 verset 1. Pardonnez-moi d'avoir ajouté très difficile. On n'a pas le droit d'ajouter. Mais vous comprenez que on peut, par exemple, donner une note plus forte quand parfois nous autres, chrétiens, nous avons plutôt tendance à diminuer les expressions dans leur sens. Premièrement, chers amis, la fidélité à la saine doctrine est aujourd'hui, hélas, dénigrée. Le Saint-Esprit nous avertit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, selon la première épître de Timothée, chapitre 4, verset 1. En effet, de plus en plus de serviteurs de Dieu, tout en faisant de grandes choses pour Dieu, s'éloignent graduellement de la foi et lentement se tournent vers des doctrines de démons et des fausses doctrines. À cause de leur grande réputation, ils égarent les chrétiens naïfs et ignorants. Comme les saintes Écritures l'ont prédit, un grand nombre de chrétiens, n'ayant pas l'amour de la vérité, surtout de nos jours, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10, donc ces chrétiens s'éloigneront de la foi et ne résisteront pas à l'esprit du monde dans ces temps difficiles. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 5, ainsi que verset 10 à 12, et 2 Timothée, chapitre 3, verset 2 et 3. C'est ainsi qu'un évangile déformé et faussé ne rencontre aujourd'hui que très peu de résistance dans les églises. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, notez encore chapitre 4, verset 3, et 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. La popularité de ces enseignements non bibliques est avant tout le résultat d'une attaque satanique ayant pour but de s'opposer à l'œuvre de Dieu. La Sainte Bible nous informe que la seconde venue de Christ sera précédée par une intensification du satanisme, du spiritisme, de l'occultisme, de la séduction démoniaque dans le monde et dans l'Église, et que de faux docteurs offriront un salut bon marché, ignorant les exhortations de Jésus-Christ sur la repentance, la séparation avec l'immoralité, la loyauté envers Dieu et de sa sainte parole. C'est confirmé par la deuxième épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Ainsi nous est-il dit aussi, je crois, les chapitres 12 et 19. Mais je pense que c'est plutôt deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 12 à 19. Veuillez vérifier, s'il vous plaît, car c'est important que vous notez les citations bibliques, parce que je peux aussi me tromper, étant tout de même, il n'y a pas d'excuse à cela, bien sûr, à 89 ans, on n'a plus tout à fait la même maîtrise que quand j'avais 40 ans. Mais, encore une fois, pardon si je me trompe. Chers amis, la Sainte Bible atteste également que de faux évangiles seront annoncés, mettant l'accent sur les désirs de l'homme, sur ses besoins et ses objectifs égocentriques si populaires de nos jours. Là, j'en suis certain, c'est 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Plusieurs églises tolèrent déjà pratiquement n'importe quoi dans le seul but d'avoir beaucoup de monde, d'avoir de l'argent, c'est important, avoir du succès et surtout de la popularité. L'évangile de la croix, avec son appel à souffrir, oui, souffrir par fidélité à la bonne nouvelle, selon Philippiens chapitre 1, verset 29, qui nous demande à se séparer radicalement du péché, selon Romains chapitre 8, verset 13, et à se sacrifier pour les intérêts du royaume de Dieu, tout en renonçant à soi-même, cela devient de plus en plus rare. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 12. Notez 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset 5. Et ajoutez toujours 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Deuxièmement, le disciple de Jésus doit être prêt à souffrir pour rester fidèle à la saine doctrine. Toutefois, est-il dit, quelques fidèles disciples de Jésus-Christ resteront tout de même attachés à l'enseignement des apôtres du Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Notez Saint Matthieu, chapitre 24, verset 13, chapitre 25, verset 10, Saint Luc, chapitre 18, verset 7, et die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Et c'est donc grâce à ces loyaux disciples que l'Église demeurera victorieuse en utilisant dans ses combats l'épée de l'esprit. Oui, l'épée de l'esprit qui est un esprit de vérité. Et cela jusqu'à ce qu'elle soit enlevée au ciel dans la gloire. L'apôtre Paul exhortait déjà vivement Timothée pour qu'il reste fidèle, quoi qu'il en coûte, en lui écrivant « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. Ces saines paroles constituent le message original et fondamental de Jésus-Christ et de ses apôtres, tout comme les doctrines bibliques enseignées par saint Paul à Timothée, qui devait s'attacher fermement à toutes ces vérités, ne jamais s'en éloigner et ne faire aucun compromis, même si cela signifiait pour lui souffrance, rejet et disgrâce. De nos jours, il est très populaire dans certaines églises de considérer l'expérience ou les nouvelles révélations comme étant beaucoup plus importantes que la saine doctrine elle-même. Or, une telle position est naturellement condamnée par la sainte parole de Dieu. S'il vous plaît, notez 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, ainsi que 1 Timothée, chapitre 1, verset 10, chapitre 6, verset 3, et Tite, chapitre 1, verset 9 et verset 13, ainsi que chapitre 2, versets 1, 2 et 8. En résumé donc, le disciple de Jésus-Christ voulant rester fidèle à Christ et à sa sainte parole aura malheureusement à souffrir, selon 2 Timothée chapitre 1 verset 8, chapitre 2 verset 9, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 29. Tel un soldat, il sera appelé à endurer volontairement les oppositions et les persécutions, et il sera appelé à combattre le bon combat de la foi dans une consécration totale à son cher Seigneur. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Comme l'athlète, il faudra qu'il renonce délibérément à lui-même et qu'il ait une vie très disciplinée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Tel un laboureur, il devra travailler durement et souvent patiemment, surtout s'il veut récolter des fruits. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Il reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît vraiment ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le saint nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Éloignons-nous de certaines choses que le monde nous offre. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Bien que beaucoup s'éloignent de la vérité, c'est vrai, malheureusement, selon saint Matthieu, chapitre 24, verset 11, et qu'aujourd'hui de faux docteurs s'infiltrent dans l'Église, selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 14 à 18, le plan de Dieu pour ses fidèles disciples, ne pourra être contrecarré, absolument pas, malgré tous les efforts de l'ennemi. Donc le solide fondement de Dieu, la véritable Église, ne sera jamais détruit. Et sur ce fondement, deux vérités s'inscrivent et servent de sceau à tous ceux qui appartiennent à l'Église du Seigneur. Dieu connaît et il distingue infailliblement tous ceux qui demeurent fidèles, fidèles à la saine doctrine, de ceux qui font des compromis. Genèse, chapitre 18, verset 19, et Exode, chapitre 33, verset 12 et 17. Je répète pour que ce soit pas mal compris. Dieu connaît et Dieu distingue infailliblement tous ceux qui demeurent fidèles à la saine doctrine et il fait la différence avec ceux qui font des compromis. Et aujourd'hui, évitons, s'il vous plaît, évitons de faire des compromis, même si c'est pour plaire peut-être à une chère amie qui s'assied tous les dimanches matins à côté de vous sur le banc. Eh bien, non. Dites non au compromis et restez fidèles à la saine doctrine, coûte que coûte. Ceux qui lui appartiennent au Seigneur doivent donc, c'est dit dans la Sainte Bible, ils doivent se détourner de l'iniquité et des fausses doctrines. Et là, notons, s'il vous plaît, 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5 et le verset 11. Donc ce n'est pas des choses que je vous invente, mais uniquement ce que la Sainte Bible nous renseigne, nous transmet, aimerait nous faire comprendre. Troisièmement, le disciple doit donc se séparer de tous ceux qui prêchent des fausses doctrines, même si vous devez malheureusement vous séparer d'un certain milieu d'église, ça peut arriver, eh bien il vaut mieux ça que de continuer à écouter des enseignements qui sont erronés. Voyez-vous, la doctrine biblique de la séparation spirituelle, elle est oubliée, négligée et même rejetée, et cela par de nombreuses églises de nos jours. Et dans les Saintes Écritures, cette séparation n'est pas présentée comme étant un principe auquel il nous faut seulement croire, mais bien plus. C'est comme une discipline de vie à laquelle tout vrai, véritable disciple de Jésus-Christ est appelé à se soumettre. Nous devons nous y soumettre. Plusieurs passages du Nouveau Testament traitent de ce sujet. Nous permettrons de dresser une liste des différentes, de toutes ces différentes théories, et nous devons vraiment nous séparer, choses desquelles le chrétien doit s'éloigner absolument. Il faut donc qu'il se sépare, hélas, il faut donc qu'il se sépare. C'est donc très très important, je vous le dis avec tout mon cœur, sincèrement. Vous savez, c'est sérieux tout cela. Je voudrais, avant de continuer, parce que je peux l'oublier, il y avait dans le journal un article qui est, à mon avis, terriblement scandaleux. Oui. Il, en grosses lettres, hein, je ne vous dis pas une plaisanterie, en grosses lettres, il est écrit que ce soit bien clair. Je suis fier d'être gay et j'estime qu'être gay est l'un des dons les plus précieux que Dieu m'ait fait. En grosses lettres épaisses, ou je ne sais pas si on dit en français lettres grasses, eh bien, je pense que vous comprenez que écrire cela dans un journal où même un enfant peut le voir et le lire, c'est tout de même monstrueux. Voyez où on en est. On est vraiment à la fin des temps. Et si vous regardez autour de vous, en Angleterre, des inondations que des certaines villes n'ont jamais connues. En Espagne, des feux de forêt en plein hiver, c'est pas la coutume. Et aux États-Unis, des typhons d'une violence telle qu'il y a eu des dizaines de morts, sans compter toutes les maisons arrachées, détruites, et des gens à la rue. C'est pas drôle. Et vous savez ce qu'ils ne savent pas, tous ces gens, c'est que le pire est à venir. Et oui, je suis pas du tout un oiseau de mauvais augure, mais c'est la Sainte Bible qui nous l'enseigne, qui nous avertit. Oui, voyez, il nous faut donc, comme il est dit, nous séparer de ceux qui annoncent des choses plaisantes à nos oreilles. Ceux qui causent des divisions parce qu'ils abandonnent la saine doctrine. Il est dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous donc d'eux. Romains chapitre 16, verset 17. Dans ce verset, l'apôtre Paul nous informe que ce sont ceux qui prêchent des fausses doctrines qui créent des divisions et non pas ceux qui prêchent la saine doctrine. Car on entend généralement dire le contraire. Ne déclare-t-il pas, en effet, que ce sont ceux qui prêchent la saine doctrine qui divisent le corps de Christ? Mais quel mensonge! Quelle manipulation habile! Séparons-nous donc de tout frère qui vit dans l'immoralité, qui vit dans le genre comme ils ont vécu dans Sodome et Gomorre. Oui, nous devons nous détacher de cela, nous séparer. 1 Corinthiens chapitre 5. Et nous séparer de toute communion spirituelle avec les infidèles. 2 Corinthiens 6, verset 14, chapitre 7, verset 1. Séparez-vous également des faux docteurs. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 4. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Et 2e épître de Saint Jean, chapitre, je crois que c'est le verset 10 et le verset 11. Mais je ne me rappelle pas du chapitre, pardonnez-moi. Donc, une chose importante, séparez-vous de toute apparence du mal. Nous devons nous en séparer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. Ensuite, nous devons nous séparer de tout frère vivant dans le désordre. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 18. Nous devons nous séparer des hérétiques. C'est écrit dans Tite, chapitre 3, verset 10 et 11. Et ensuite encore, séparez-vous de l'esprit du monde actuel. Hébreux, chapitre 13, verset 13. Un gynécologue a dit à une jeune femme mariée, dont le mari a un travail où il doit aller des fois à l'étranger pour représenter sa firme, il lui a recommandé que pendant ce temps, elle doit s'épanouir et avoir des relations sexuelles extra, je ne sais pas comment on dit, enfin bref, à côté. Et aujourd'hui, c'est des choses qui deviennent courantes, et c'est grave et dangereux. Je ne veux pas rentrer dans la peur de dire vous allez attraper des choses pas très désirables, mais ça peut aussi arriver. Voyez-vous, cet enseignement de la Sainte Parole de Dieu est très clair et très précis. N'oublions pas que de s'y soumettre n'est pas une option, mais pas du tout, mais c'est un impératif pour tout chrétien. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Que croyez-vous qu'un serviteur qui doit des fois aller enseigner au Bénin en Afrique, pendant que sa femme Myriam est dans l'appartement, croyez-vous qu'il doit s'inquiéter, mais pas du tout, parce qu'il sait que sa femme est une sainte, dans le sens une pure, une femme qui est tout à fait selon les saintes écritures, voyez-vous? C'est merveilleux d'avoir ça. C'est une garantie infaillible. Et dans l'Église, il existe beaucoup de vases. Certains sont des vases d'honneur, comme cette femme Myriam. Ce sont les fidèles disciples de Jésus-Christ qui se séparent du mal et qui combattent pour le véritable évangile, c'est-à-dire la sainte doctrine des saintes écritures. D'autres sont des vases d'un usage vil. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Ce sont les faux chrétiens, pseudo-chrétiens. J'en faisais partie autrefois. Vous savez, je ne suis pas fier de vous le dire. Oh non, bien au contraire, qui se détournent de la vérité. 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 19. Il est instamment demandé aux disciples qui veulent rester fidèles et utiles à leur maître de se séparer de tous ceux qui prêchent des doctrines contraires aux saintes Écritures. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 et Romains, chapitre 16, verset 17. Donc tout contact avec ceux qui enseignent des fausses doctrines doit se faire uniquement dans le but de les corriger avec amour, il est vrai, mais avec fermeté, pour leur permettre de se repentir et de parvenir à la connaissance de la vérité. 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Quatrièmement, le disciple sera récompensé d'avoir été fidèle à la saine doctrine. Vers la fin de sa vie ici-bas, l'apôtre Paul décrivit la vie chrétienne en ces termes. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, lui, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. L'apôtre Paul compare la vie chrétienne à un bon combat. Le seul combat qui vaille la peine d'être mené. Lui-même a combattu contre l'esprit du siècle. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Le salut par les œuvres, selon Galates chapitre 5, versets 1 à 6. L'immoralité dans l'Église, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Et vous pouvez ajouter toute une série de citations bibliques que vous pouvez plus tard contrôler ou relire. 2 Timothée chapitre 4 verset 3, Romains 6 verset 1, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1, chapitre 6 verset 9 et 10, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 20 et 21, les faux docteurs, selon 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 5, Actes chapitre 20 verset 28 à 31, Romains chapitre 16 verset 17 et 18, la falsification de l'Évangile, Galates chapitre 1, verset 6 à 12. La mondanité, Romains chapitre 12, verset 2. Et le péché, Romains 6, verset 8 et verset 13. Ainsi que 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Il y a beaucoup de citations bibliques que je vous donne, mais il y a une raison à cela. Et il y en a même plusieurs, mais je crois que vous les connaissez. Donc, l'apôtre Paul, c'était quand même pas n'importe qui. Moi, personnellement, je vous dis franchement, je ne lui arrive même pas à la cheville. Il a fini sa course au sein de grandes difficultés, de grandes épreuves et de terribles tentations, mais il est resté fidèle. Oh oui, fidèle à son Seigneur et Sauveur jusqu'à la fin de sa course. Notez 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Notez Hébreux, chapitre 10, verset 23 et le verset 11. Et notez encore le chapitre 12 de Hébreux, verset 1 et 2. Donc, notre cher apôtre Paul à garder la foi pendant des périodes de grand découragement et de grande affliction, abandonné par ses amis et malmené par de faux docteurs. Il n'a jamais fait de compromis avec la vérité de l'Évangile, jamais. Notez 2 Timothée, chapitre 1, verset 13 et 14, chapitre 2, verset 2, chapitre 3, verset 14 à 16, et le chapitre 4 de 2 Timothée, chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 18, très important. Étant donc resté fidèle, fidèle jusqu'à la fin à son Seigneur et à l'Évangile qu'il lui a confié, le Saint-Esprit lui rend témoignage de l'approbation divine sur sa vie, en lui promettant la couronne de justice, cette couronne qui l'attend dans le ciel. Comme pour l'apôtre Paul, Dieu a en réserve auprès de lui des récompenses pour tous ceux qui auront gardé la foi et qui auront combattu pour la saine doctrine, malgré l'époque très difficile, malgré que nous allons nous faire moquer de nous. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Et cinquièmement, chers amis, le disciple doit résister aux vagues et aux vents de doctrine de ces derniers temps. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche, dans le texte grec il est dit, le sens est répétitif, c'est-à-dire prêche, 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 sans te lasser. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, et reprend, censure s'il le faut, exhorte, avec beaucoup de douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas plus du tout la saine doctrine, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, toi qui écoutes maintenant, s'il te plaît, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre d'un véritable disciple, remplis bien ton ministère. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Selon l'apôtre Paul, le seul remède à la confusion spirituelle, cette confusion actuelle qui règne au sein de tant d'églises, cela consiste à prêcher de plus en plus la saine doctrine, et non de moins en moins, comme cela se fait hélas trop souvent, aujourd'hui le contraire. Devant des vents de changement de doctrine qui soufflent contre l'Église des derniers temps dans lesquels nous sommes déjà, le disciple de Jésus-Christ doit avoir le courage d'affirmer que la Sainte Bible demeure son seul et suprême guide en matière de foi et de conduite. La parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, qui est aussi l'Esprit de vérité, nous a été donnée pour tester tout ce qui n'est pas conforme à la saine doctrine. À l'exemple des Béréens, il incombe donc à chaque chrétien d'examiner les Écritures pour contrôler si tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, tout ce que vous lisez ou expérimentez est vraiment strictement conforme à ces enseignements. Actes chapitre 17 verset 11. Combien de nouveaux prophètes, oui combien, apportent des doctrines, des expériences et de nouvelles vérités, sans aucun fondement scripturaire sérieux et solide. Cette tendance sera l'une des plus grandes séductions de Satan pour conduire les chrétiens dans l'apostasie des derniers temps. Notez Saint Matthieu chapitre 24, verset 5 et le verset 11, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, et 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et 2. En effet, en ces temps de la fin, l'un des plus grands mensonges du diable, présenté aux chrétiens sous une apparence tellement séduisante et trompeuse, est la suivante. Dieu, soi-disant, est en train de faire une chose totalement nouvelle. Oui, ça a été prêché, et ça continue d'être prêché, que Dieu est en train de faire des choses totalement nouvelles. Ce mensonge est une forme de slogan que nous entendons souvent dans certains milieux même charismatiques. Cette déclaration sous-entend que la première église des Actes des Apôtres n'est plus du tout le modèle exclusif du chrétien, mais qu'il nous faut maintenant, si nous ne voulons pas subir le jugement divin, accepter sans même de réfléchir toutes les nouvelles révélations provenant de ces prétendus nouveaux apôtres et prophètes qui se présentent périodiquement dans l'Église. Leur vision et leurs directives sont placées au même niveau que les Saintes Écritures, et comment ? Et dans certains cas, elles les supplantent même. Quel aveuglement et quelle arrogance ! De plus, croire que les deux déclarations suivantes soient absolument vraies, que Dieu est en train de faire une chose totalement nouvelle, et cette autre fausse affirmation du révérend John Wimber, mondialement connu, Dieu est plus grand que sa parole. Si vous réfléchissez calmement, en priant, ça, c'est ouvrir la porte à toutes les autres hérésies. Un homme de Dieu aussi célèbre dire que Dieu est plus grand que sa parole. Et j'ajoute, selon la version allemande, que sa sainte parole. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment bon, cela ? À vous de juger. Moi, je n'ose pas juger, bien sûr. Je n'ai pas le droit. Mais j'ai le droit de m'inquiéter, quand même. D'ailleurs, les deux expressions que nous venons de citer ne ressemblent-elles pas étrangement à une autre parole, celle du diable, lorsqu'il trompa Adam et Ève en leur demandant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse chapitre 3, verset 1. Satan mettait déjà en doute la pleine suffisance de la sainte parole de Dieu, ainsi que son autorité suprême et unique. Combien la ruse de l'ennemi est grande, il nous est appelé et recommandé à veiller, car les temps sont difficiles. La nature de Dieu est précisément enracinée dans son immuabilité. Elle en est si fortement ancrée que remettre en question ce principe serait se demander si Dieu est vraiment Dieu. Pour terminer cette étude, nous savons tous que la notion même de Dieu implique qu'il est immuable, invariable et éternel. Il a lui-même déclaré « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Malachie, chapitre 3, verset 6. Jésus a dit aussi, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point et jamais. » Saint Matthieu, chapitre 24, verset 35. En cette période de troubles et d'apostasie, rappelons-nous les paroles de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, nous exhortant à ne rien ajouter ni rien retranché à la sainte parole de Dieu. Révélation complète et parfaite de Dieu aux hommes de tous les temps. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, eh bien je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens donc ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse chapitre 3, versets 10 et 11. Le rôle de tout disciple véritable n'est pas seulement de prêcher la saine doctrine, mais c'est aussi de dénoncer les fausses doctrines. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Certains aujourd'hui dans l'Église pensent que dénoncer les hérésies n'est pas chrétien. Ils ont certainement besoin de relire le Nouveau Testament, me semble-t-il. Chers amis, je voudrais vous transmettre encore quelque chose pour vous encourager et aussi comme enseignement. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je voudrais encore donner quelques directives qui sont données par le Saint-Esprit au sujet de la prière. La prière, c'est l'acte intérieur par lequel nous nous emparons des énergies spirituelles qui sont absolument indispensables, indispensables à notre épanouissement complet. La prière est la condition de notre parfait développement et par conséquent de l'humanité normale. Prier, c'est l'activité virile et sublime par excellence. C'est l'activité héroïque par laquelle nous prenons contact avec la force éternelle qui besoigne au fond des choses, qui élève l'humanité au-dessus de l'animalité et qui élève le genre humain lui-même jusqu'à un type supérieur de l'existence dont Jésus nous est le garant glorieux. Par la prière, en un mot, nous nous haussons à la stature de Christ. De même que certains moteurs se chargent d'électricité, de même celui qui prie et emmagasinera de la force morale. Son âme élargie, purifiée, s'élève au-dessus du niveau moyen. Elle rayonne, elle s'exalte pour ainsi dire, elle devient capable d'œuvres imprévues, d'efforts surnaturels. Elle se surpasse elle-même et représente momentanément une phase de son développement ultérieur. Elle est donc pour elle-même, dans le présent, une prophétie de ce qu'elle sera dans l'avenir. Elle est un gage des transformations ineffables qui lui sont promises. Elle est une garantie de son immortalité. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais maintenant faire cette petite prière que vous pouvez aussi prier dans votre cœur. D'un cœur sincère, je demande Jésus-Christ, sanctifie-moi davantage, car je sais que j'en ai vraiment besoin. Pardonne-moi de tous les péchés, car il y a ceux qui, par un manque de vigilance, je peux oublier, mais dont je sais quand même que j'en suis malgré tout responsable un jour. Alors sanctifie-moi davantage, c'est ma demande, sérieuse et sincère, que je puisse être un véritable disciple qui t'aime de tout son cœur et qui milite pour la vérité. Amen. Amen.